On pouvait le pressentir lors du tirage au sort par rapport à sa partie tableau, mais ça semble de plus en plus vrai et de plus en plus bon pour Novak Djokovic. Est-il déjà en finale? Ça va être le dossier de ce soir. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça avec Josh. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Salut Josh, comment ça va?
Ça va super bien, j'espère que tout le monde va bien. On est en début de Grand Chelem, le dernier majeur de l'année, là où tout va se jouer. Ça fait pour l'instant 2 pour Djokovic et 1 pour Alcaraz. Ça semble un peu se reproduire. Enfin, un des deux vainqueurs de l'année semble être en bonne position pour remporter le Grand Chelem américain. À voir qui ce sera. Est-ce que ce sera un autre? Donc une surprise. Ça va être très intéressant de suivre tout ça pendant cette quinzaine. Déjà quelques beaux matchs, on va en reparler.
C'est clair, notamment de la part de nos Français. C'est quand même à souligner. On en reparle juste après le jingle. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Très content d'être avec vous. Et déjà, un grand merci parce qu'on a atteint ce week-end la barre symbolique des 10 000 abonnés sur YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup par rapport à 7 ans d'efforts sur la chaîne avec voilà, tous les chroniqueurs qui ont pu passer, qui ont pu poser leur empreinte et poser pierre par pierre pour arriver à ces 10 000 abonnés. Donc, un grand merci à vous. Je vous invite à aller voir sur l'onglet communauté. On a pu s'étendre un petit peu plus longuement, mais ça nous fait très plaisir. Et maintenant, on va viser les 20K. Comme on dit, c'est la prochaine next step. Par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de cette US Open, donc là, on arrive, tous les premiers tours sont terminés. Même les second tours sont en cours, avec notamment Tsitsipas, comme certains l'ont souligné. On va commencer avec le traditionnel Ace Breaker. On va revenir un peu sur les faits marquants avant d'attaquer le débat du jour et le dossier sur la partie de Djokovic. Josh, qu'est-ce que toi tu retiens sur ces 2 premiers jours à l'US Open?
Je retiens effectivement quelques beaux matchs, quelques belles victoires aussi, à commencer par Andy Murray qui jouait contre notre Français Corentin Moutet. Andy Murray, bon, je ne sais pas forcément ce qui a retenu évidemment l'attention dans ce premier tour, étant donné qu'il a gagné en 3-7. Voilà, c'est toujours autant plaisant de le voir jouer à ce niveau-là. Et il faut dire aussi qu'il est parfaitement rentré dans le jeu de Corentin Moutet, un jeu assez imprévisible, un jeu malicieux. Il a fait comme Corentin Moutet, mais peut-être en mieux tout au long du match, avec des amortis, des slices vraiment très rasants. Et c'était un vrai beau match avec un Moutet, voilà, qui a fait ce qu'il a pu. On sait qu'il a toujours cette blessure qu'il essaye de soigner. Donc voilà, un Murray qu'on espère voir, enfin que j'espère personnellement aller voir assez loin dans ce tournoi. On sait qu'il va jouer Grigor Dimitrov qui sort d'un gros combat en 4h40 contre Molcan, où il a dû sauver 3 balles de match. Donc ça va être, voilà, les deux se sont déjà joués pas mal de fois, notamment en Grand Chelem. Et ça va être très intéressant de voir ces deux se réaffronter pour une place au troisième tour. Ensuite, évidemment, on a notre Arthur Fils qui a fait un grand match, qui a gagné son premier match en Grand Chelem. Voilà, un match énorme contre Grigspor. Il n'était pas du tout favori. Il avait perdu 2 fois contre Davidovich Fokina en Grand Chelem cette année. Et là, il a vraiment su retourner le match. Et ça confirme sa superbe année avec son entrée dans le top 50. Sa victoire contre un premier top 10, Casper Ruud. Et là, voilà, sa première victoire. Alors, il a 19 ans et 2 mois. Et je suis allé regarder un peu, je suis allé faire le comparatif avec nos 4 mousquetaires. Quand est-ce qu'ils ont gagné leur premier match en Grand Chelem? Ouais, c'est assez intéressant. Évidemment, on va lui laisser le temps. Hein, il ne faut pas non plus dire que c'est le prochain Tsonga. Voilà. Mais à ton avis, est-ce que Tsonga a gagné son premier match en Grand Chelem avant ses 19 ans et 2 mois ou après? C'est assez intéressant à.
J'aurais dit après.
Après, effectivement, c'est après. Il a
Pour
gagné
moi,
son
ça doit être Gasquet,
match.
ouais. J'aurais dit Gasquet, qui était
Ouais.
peut-être avant.
Donc, Tsonga, il a gagné son premier match à Wimbledon en 2007 contre Beneteau. Il avait 22 ans et 2 mois. Donc, on voit qu'Arthur est quand même en avance de 3 ans par rapport à Tsonga. Effectivement, Gasquet, comme tu l'as dit, c'est avant. Gasquet, c'est 18 ans et 11 mois. C'était à Roland-Garros 2005. Mon fils aussi, c'était avant. J'aurais pas peut-être j'aurais pensé à l'inverse. Mais mon fils, effectivement, 18 ans et 4 mois, c'était à l'Open d'Australie en 2005 contre Robbie Ginepri. Et Gilles Simon, c'était après 21 ans et 2 mois à l'Open d'Australie en 2006 contre Nicolas Massou. Donc voilà, assez intéressant. Il est entre Tsonga et Simon qui l'ont remporté après et mon fils et Gasquet qui l'ont remporté avant. Donc est-ce qu'il est dans les clous pour l'instant? Oui, il est dans les clous pour faire une très très belle carrière. Maintenant, effectivement, lui laisser le temps de grandir, de progresser, parce qu'il a encore des axes de progression. Mais on a vu hier qu'il a vraiment un coup droit qui gicle énormément et qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc, à voir ce qu'il pourra nous proposer. Et enfin, je citerai la victoire d'Hubert Hurkacz, qui s'en est sorti non sans mal dans un énorme combat. Il lui a fallu 5-7. Vraiment, c'était assez inattendu de le voir autant galérer. Il perd les deux premiers sets et on se disait c'est pas possible, lui qui a fait une tournée nord-américaine si excellente, qui perd contre Alcaraz, voilà, il a balle de match, on se dit il va pas sortir au premier tour de l'US. Il a failli, mais il s'en est bien sorti. C'était contre Wessler, le Suisse qui joue vraiment bien, qui est vraiment à suivre, un joueur qu'il faut suivre. Et voilà, il s'en est sorti, notamment grâce à son service, où il a, je crois, 80% des points gagnés derrière sa première, plus de 50 gagnants. Donc voilà, c'est une entame assez compliquée, mais il est là. Et ce sera peut-être un électrochoc pour ses futurs match avec, il me semble, un prochain match contre
Draper.
Voilà. Donc ça, on va voir comment il va manœuvrer la patte gauche, mais voilà un peu sur ces quelques points.
Complètement. Bah déjà, je te rejoins totalement. Et pour compléter, il y a aussi cette jeunesse qu'on voit dans ces premiers tours. Donc on aura l'occasion de revenir sur Drogué plus tard, notamment dans le débat sur Djokovic. Mais Mensik aussi, qui sera son prochain adversaire, l'école tchèque, 17 ans, qui remporte quand même 5 futurs entre septembre 2022 et avril 2023, un challenger en mai, et là il se fait quand même en qualif Fonini, Riedi et Collard. Donc chapeau bonhomme, après avoir sur la durée de ces gros combats, de ces longs matchs où physiquement ça peut tirer, il aura une carte à jouer contre Drogué où ça promet vraiment une très belle ambiance contre notre français. Et la petite surprise pour moi, Baez qui s'impose en 3-7 contre Čurić, qui est invaincu depuis sa défaite à Hambourg contre Casper Ruud. Il a enchaîné 11 victoires, 2 titres, l'Argentin. C'est assez étonnant. Et le dernier point, pour moi, c'est la grosse désillusion qui était prévisible de notre Caroline Garcia nationale, qui n'en met plus une devant. Enfin, voilà, il y a plusieurs joueurs qui sont dans ce cas de figure. On viendra sur Rogel Yacine un petit peu plus tard. Mais là, Caro Garcia, comme ça qu'arrive, enfin, on sent vraiment qu'elle n'en peut plus. Là, ça va peut-être lui faire du bien de passer ce tournoi. Elle avait demi à défendre et après, il ne fera sans doute pas au Masters de fin d'année. Mais c'est vrai que c'est assez déplorable parce que son niveau était catastrophique. On a l'impression qu'elle a perdu, elle a perdu ce feu sacré. Et derrière, son tennis s'effrite totalement. Et c'est triste à voir, en fait, de l'avoir paniqué comme ça. Et ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vécu à l'époque. Il me semble que c'est 2017, je crois, c'est la grande saison. Ouais. Où elle fait aussi une fin d'année exceptionnelle. C'est derrière, ça a été très compliqué. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à revoir et peut-être que le début en 2024 nous fera du bien d'avoir tout ça derrière elle. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué pour elle. Ouais, cata, comme tu dis, Alex, vraiment la cata. Le match de Joko contre Zapata, justement, ça va être la transition parfaite sur le dossier un petit peu du jour. Joko déjà en finale. Donc, c'est vrai que quand on a vu son tirage au sort, on savait que c'était quand même relativement favorable de prendre Tsitsipas, de prendre Rogel Yacine, de prendre tous ces joueurs qui n'étaient pas en grande forme ou qui ne performaient pas forcément bien à l'US Open. Et il s'avère que sur le premier tour, il y a Holger Rune qui est tombé. Lui, physiquement, c'est très compliqué. Rogel Yacine qui est tombé aussi, sans grande surprise. Là, Tsitsipas est en train de jouer contre Dominic Stryker. Moussetti aussi qui est tombé contre Drogué, la sensation française. Je pense qu'on pourra en parler, Josh. Mais on voit petit à petit un tableau qui était déjà dégagé, qui se dégage encore plus. Donc vraiment, on se demande comment le Serbe ne va pas pouvoir atteindre la finale au vu de ses potentiels adversaires. Qu'est-ce que toi, tu en penses?
Ouais, quand on a vu le tirage au sort, c'est vrai qu'on s'est dit qui peut éliminer Djoko avant la finale, quoi. Enfin, On a effectivement un Tsitsipas en quart, mais on n'y croit pas trop. Déjà, est-ce que Tsitsipas sera en quart? C'est vrai ça. qu'il a évité le piège Raonic au premier tour. Il s'en est très très bien sorti dans un match voilà, qu'il a bien mené. Mais là, on voit que c'est assez. Enfin, il n'a pas perdu, hein, mais que c'est encore un peu compliqué. Il va perdre des manches, voilà, il va lâcher des sets. Là, il est à 2 points du deuxième, de prendre le deuxième set. Mais c'est voilà. Tu te dis, est-ce que Tsitsipas sera au rendez-vous? Est-ce que ce sera Fritz que Djoko jouera? Et si c'est Fritz, mais tu peux pas imaginer Taylor Fritz réaliser l'exploit de battre Novak Djokovic, même s'il est à domicile. Enfin, tu te dis. Et en demi-finale, voilà, il y avait effectivement potentiellement Holger Rune. Mais Holger Rune, voilà, il n'a pas encore l'expérience des grands rendez-vous en deuxième semaine de Grand Chelem. Il a fait quart à Roland-Garros, mais quand il a battu Novak Djokovic, c'est vrai qu'il y a eu cette finale à Bercy. Il y a eu aussi ce match à Rome, donc c'est des événements voilà, assez importants dans l'année. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de demi-finale de Grand Chelem face au patron, face à Djoko. Donc voilà, Holger Rune, de toute façon, n'est plus là. Donc on se dit que ce sera peut-être Tiafoe ou peut-être Tommy Paul en demi. Mais là, encore une fois, personnellement, je n'y crois absolument pas. Donc, à partir de ce principe, il a des matchs à jouer. Tout le monde est sur la même ligne d'égalité. C'est ça qui est bien en grand chelem. Même si, bon, il y a ce principe de tête de série qui permet à Novak Djokovic d'entrer vraiment tranquillement dans son tournoi. Là, il va jouer Zapata. Enfin, je vois pas le match dérouler en plus d'une heure et demie, 2 heures. Je pense que ça va être vite fait. Peut-être pas aussi expéditif que contre Alexandre Muller. Mais voilà, c'est vraiment le parcours parfait qui permet vraiment de prendre ses marques. Et voilà, de rentrer parfaitement dans le tournoi. Il aura un Cerundolo au troisième tour, peut-être.
En huitième.
En huitième, pardon.
C'est ça. Au troisième tour.
Ouais, donc non, tous ces joueurs que je viens de citer qui seront maintenant ses principaux rivaux avant la finale, je pense que toi comme moi, comme tous les talkers, ne voient aucun de ces joueurs le battre. Donc effectivement, on a une partie de tableau, voilà, une deuxième partie, moitié de tableau qui va être quand même intéressante à suivre, notamment le premier quart, pour savoir qui sera le demi-finaliste. Là, c'est là qu'il y a vraiment débat pour moi, entre un Tommy Paul ou un Frances Tiafoe, s'il arrive vraiment à rentrer dans son tournoi. Mais c'est vrai que je vois Djokovic rallier la finale, malheureusement, assez facilement. Je me dis que, est-ce qu'il peut lâcher des sets? C'est ça aussi la question. Comment il va arriver en finale? S'il arrive en finale, quel est le danger, quoi? Et comment il pourrait y laisser des plumes? C'est vrai que si un Fritz y arrive ou un Tsitsipas dans ce match en quart de finale, si vraiment l'un des deux est en feu, en surconfiance, il peut lui poser quelques problèmes. Et peut-être que Djokovic, dans ses premiers tours, aurait tellement pas eu à puiser dans ses ressources qu'il aurait peut-être un petit décalage. Mais voilà, c'est tout ce qu'on se demande en fait, comment Djokovic va arriver en finale. Donc c'est vrai que pour moi, ça va être assez clair de ce point de vue-là. Djokovic, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être en finale dimanche.
Ah, je te rejoins totalement. Et pour pour les 7 perdus, c'est vrai qu'on sait que Djokovic n'a toujours pas remporté le Grand Chelem sans perdre le nombre 7. Pourquoi pas perdre un petit set au troisième tour contre Djere? On sait qu'en tant qu'avec ses compatriotes, ça peut, sur un malentendu, on se rappelle de ses gros matchs contre Tsitsipas à l'US Open il y a quelques années. Pourquoi pas? Après, certains table tennis qui nous parlent de Vesely, sa bête noire, sachant que le Tchèque a toujours remporté ses matchs contre Novak Djokovic, qui doit quand même se défaire de ses Rundolo, puis de McDonald Bugojo. Le match contre McDonald Bugojo est potentiellement faisable, mais contre ses Rundolo qui reste quand même. Un bon baromètre et assez régulier, ça risque d'être compliqué, surtout qu'il a eu un gros match en 5-7 d'entrée contre notre Français, contre Kouakos, si je ne dis pas de bêtises, où ça a été compliqué pour lui, où physiquement il ne joue plus énormément, donc à voir ce que ça va donner, mais a priori ça serait Rundolo en huitième de finale. Et Tsitsipas, bon, ça c'est loin d'être fait, sachant qu'il va jouer gros serveur sur gros serveur. Là, le striker, le Suisse gaucher qui sert très très bien, qui met du temps quand même à faire son lit, je trouve, par rapport à son potentiel, sa frappe, sa qualité vraiment de balle. Mais voilà, on sait que c'est un match dangereux après avec sa jeunesse, à voir s'il tient sur la durée. Fritz, bah, il y a Musetti qui est sorti, donc potentiellement c'était un match piège pour l'Américain qui peine un petit peu en format grand chelem. Et justement, bah, l'Italien. A été battu par notre Français, Drogué, en 5-7. Donc le Français qui a remporté en juin dernier le $25,000 de grâce. C'était le premier match sur le circuit principal, donc son premier match en majeur. Premier match en 5-7, premier match contre un top 50, et encore plus là, un top 20. C'est assez impressionnant sur le circuit futur et challenger. Depuis Roland Garros, il était à 26 victoires pour 5 défaites. Donc vraiment, il engrange vraiment de la confiance sur le circuit secondaire. Et on a quand même Musetti qui mène 2-7-1 et qui a le break dans le quatrième et qui finit par perdre. Qu'est-ce que toi, cette victoire de Drogué t'évoque? Comment est-ce que tu vois ce joueur? Est-ce que ça va, enfin, ça fait forcément du bien pour le tennis français, mais comment t'appréhendes un petit peu ce triomphe du français?
Bah, c'est forcément une victoire qui doit lui faire beaucoup de bien. Je ne pense pas forcément qu'il s'y attendait. Mais voilà, il s'est battu vraiment jusqu'au bout. C'était vraiment un gros challenge hein, de jouer Lorenzo Musetti, qui est un très très bon joueur sur le circuit, qui a encore un palier à passer, je trouve, pour vraiment s'ancrer dans un vrai top et être vraiment un potentiel vainqueur de Masters 1000. Mais voilà, c'est une super victoire. Moi, j'avais eu l'occasion de voir... Drogué jouer à Orléans contre Corentin Moutet, où il fait un très bon match, il va au tie-break, et derrière c'était plus compliqué dans le match, mais je sentais qu'il avait, voilà, il avait quelque chose dans la raquette qui pouvait lui permettre d'arriver potentiellement un jour au plus haut niveau. Et là, voilà.
Et du coup, toi qui l'as vu à Orléans de près, comment est-ce que tu qualifierais son style de jeu pour ceux qui ne connaissent pas forcément?
Il sert, ouais, c'est vrai que ça sert bien forcément, mais après, je saurais pas trop. C'est un jeu assez classique en vrai, même si voilà, ça frappe très bien des deux côtés. Je me rappelle à Orléans qu'il a posé des problèmes à Corentin Moutet. Il est pas mal monté à la volée, alors après, je suis pas certain que ce soit son style de jeu habituel, mais il est à la manière d'un Andy Murray hier, il était très très bien rentré dans le jeu de Corentin Moutet. Sinon non, c'est un travailleur honnêtement, et contre Musetti, c'est vraiment un joueur résistant, je dirais, du fond du court. Et c'est ce qui a vraiment, on va dire, déboussolé Lorenzo Musetti, qui a fait quand même des fautes directes. Hein. Il y a pas à dire, mais je vais. En fait, Drogué a gagné par sa résistance beaucoup plus solide, sa solidité du fond du court. Donc voilà, je ne mettrais pas un coup droit ou un revers vraiment comme son arme voilà, fatale qui va lui permettre de faire la différence. Mais c'est plus dans la globalité, un jeu vraiment compact. Et quand ça sert bien, bah, ça peut être très 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 costaud. Et comme hier, voilà, il a su vraiment prendre le dessus face à Musetti. Donc, en plus, il a un deuxième tour vraiment abordable, hein, qu'il va falloir vraiment regarder.
Ouais. Deux pépites, enfin, deux futurs.
Bien sûr, mais je veux dire, il n'a pas une tête de série. COVID, ouais. Voilà, donc c'est, faut qu'il y aille à fond. Et voilà, sur un malentendu, même pas sur un malentendu, s'il est plus fort, il peut rallier le troisième tour qui serait vraiment magnifique et un coup d'accélérateur, on peut dire, dans sa carrière.
C'est clair, un beau catalyseur en tout cas. Donc Musetti, tête de série qui est tombée dans cette partie-là. Également, on avait abordé en début de débat Holgerud, qui s'incline en 4-7 contre Carbalès. Donc c'est la septième fois depuis 2000. Une des quatre premières têtes de série s'est inclinée d'entrée à l'US Open, mais il reste sur quatre défaites. On avait beaucoup d'interrogations, je l'avais évoqué dans le live et le tirage au sort, par rapport à l'état physique du Danois, l'épaule, le dos. C'était compliqué, mais bon, c'était pas bien physiquement. Ça sert à quoi de jouer Toronto, Cincinnati et là, l'US Open pour faire une telle prestation face à Carbalès, pour la solide du fond qui a tourné un petit peu les défauts de son adversaire avec son manque de construction de la part d'Holger. On sait qu'il va avoir pas mal de points à défendre là, sur cette fin de saison, notamment en indoor, que c'est une période de construction pour lui. Cette année, c'est un peu la transition par rapport à son premier titre Masters l'an dernier, et que peut-être il faudra plus l'attendre en 2024, un peu à l'image d'un Alcaraz. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette déconvenue d'Holger? Est-ce que tu le vois y aller loin avant le début du tournoi ou pas?
Holger, je l'ai mis contre Tommy Paul en 8e. Donc je l'ai mis, voilà, qui perdait contre Tommy Paul, mais je l'avais pas, je le voyais quand même passer ses premiers tours. Ouais, il tombe dans le piège. Alors est-ce qu'après il était vraiment diminué physiquement? Peut-être, mais pour moi, voilà, il a des ambitions qui sont très très hautes. Voilà, je me rappelle de sa déclaration, le Big Three, ce sera moi, Sinner et Alcaraz. Bon, bah, pour l'instant, désolé, mais il n'y en a qu'un des trois, vraiment. Enfin, même si Sinner a réalisé une étape importante dans sa carrière, au même titre que Rune à Bercy. Hein. Pour moi, voilà, on va dire que Sinner et Rune ne sont pas encore au niveau. À voir ce que Sinner va nous faire. Il va jouer... Sinner va jouer Sonego. Mais voilà, au niveau pour Holger Rune, c'est une grosse déconvenue, quoi. Perte contre Carbales Baena, qui est un très bon joueur, hein, il faut le souligner. Mais tu mets Rune gagnant tous les jours. Donc, ouais, j'ai vu une partie du match et il en mettait pas trop une dans le cours, quoi. Donc, tu te demandes ce qui se passait. Effectivement, peut-être qu'il cache un problème physique. J'espère que c'est ça. On s'en rappelle de ces fameuses crampes où il crampait pas mal il y a pas très longtemps. Mais là, voilà, c'est tout simplement dans le niveau de jeu qu'il a vraiment explosé. Il a fait un mauvais match. Donc, est-ce que ça cache quelque chose de physique? Espérons-le, parce que c'est assez décevant de le voir s'incliner de cette manière, quoi, sans montrer grand chose. Et va falloir qu'il bosse encore plus s'il veut prétendre à se rapprocher du niveau d'un Alcaraz qui explose tout et contre qui il a perdu à Wimbledon en 3 petits sets. On sent qu'il y a une grosse classe d'écart entre les deux. Donc voilà, Rune, déception. Forcément, grosse déception. C'est lui aussi qui aurait pu venir électriser ce tournoi de l'US Open, hein. De par son niveau de jeu excellent quand il joue bien, mais aussi de par son caractère. On l'a vu, tu vois, à Monte Carlo, quand il joue Sinner et qu'il le bat dans un gros 3-7, qu'il est contre le public. Enfin, c'est aussi ça, les ambiances qui font qu'un match va être exceptionnel. Et donc, je trouve que c'est dommage de perdre ce joueur aussi rapidement dans un grand chelem. Mais voilà, c'est un avertissement, c'est pour les prochaines années, pour les prochaines grosses séances. Parce que voilà, je pense que ses ambitions sont d'être dans le tout en haut. Et là, il était tête de série numéro... Attends, il était...
4.
4. Ouais, donc t'imagines, tête de série 4, perdre au premier tour, je pense que c'est... Ouais, il a pas dû... je pense qu'il doit être assez énervé au fond de lui, et tu vois, il a pas encore cette maturité. Il était programmé sur le 5, il me semble, et il s'en est plein. Enfin, franchement, vas-y, tais-toi et va au charbon, quoi. Donc c'est encore aussi, je pense, un problème de d'état d'esprit qui lui empêche
qui lui pose problème,
ouais. Ouais, qui le limite, en fait. Donc,
plus, je disais, voilà, une interview, enfin, je l'ai vu passer aussi, qu'il y avait ces problèmes ses coachs, enfin, entre Patoche, ouais. Et
ouais, son coach principal. Je pense que c'est tout le bordel autour de lui, ouais.
Ils ont vu qu'il y avait vraiment un attrait, enfin voilà, médiatique et un potentiel, c'est chez ce joueur pour potentiellement concurrencer Carlos Alcaraz. Et à voir, déjà que dans son plan de jeu, dans sa tête, c'est pas très clair. Si en plus on vient le parasiter avec des choses extra-tennis, derrière, c'est très très compliqué pour lui. À rajouter ça, c'est ce problème physique et ses choix un petit peu douteux. L'autre non-surprise, on peut dire ça, c'est la défaite d'Ogiel Yassine contre McDonald en 4-7. Tsitsipas qui vient d'égaliser à 7 partout. Et McDonald qui est justement malmené contre Gojo de 7 à rien. Où vraiment on a vu l'absence totale de plan de jeu du Canadien. J'ai l'impression que quand on le voit, il pense que frapper fort, frapper plus vite, ça va faire la différence. Sauf que si tu n'as aucune balle qui rentre, ben non, ça ne va pas faire la différence. Il avait pu s'en tirer contre Berrettini, où il avait bien, enfin voilà, il avait bien fixé avec son coup droit. Il avait réussi à gommer un petit peu quelques fautes. Mais là, enfin, le Canadien, c'est cataclysmique ses résultats. C'est vraiment catastrophique. Il faut vraiment qu'il se pose des bonnes questions, qu'il coupe un peu aussi voilà, l'entourage avec Denis Nadal. Est-ce qu'il est si persistant que ça? C'est pour l'avoir deux, trois fois au téléphone. Enfin, je pense qu'il y a vraiment tout à refonder par rapport à la structure autour d'Ogiel Yassine. On parlait de la structure d'Olgerud, mais là aussi, chez le Canadien, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. J'imagine que tu n'avais pas de grandes attentes envers lui.
Ouais, non, je le voyais perdre. Enfin, je l'ai mis perdant de ce premier tour, mais franchement, ouais, c'est surtout dans la manière, quoi. C'est dans la manière, je regarde le début de match, tu vois, et au tie-break du premier, bah tu vois, il perd sur une double faute. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il démontrait l'année dernière une telle force. On pouvait pas dire que tout était vraiment cadré en termes de stratégie, tu vois, dans son jeu. Mais c'était ça tapait très très bien. Là, il a perdu cette qualité de frappe, et dû aussi à la non-confiance qu'il a accumulée là. Mais il a perdu ce petit grain qui lui permettait de faire la différence l'année dernière. Et on se rend compte que là, il tient qu'à un fil. Enfin, c'est dans le point, tu te dis, il dégage aucune sérénité. Et effectivement, tu l'as dit, il frappe, mais ça sort. Enfin, il y a des coups vraiment qui démontrent qu'il a perdu quelque chose depuis la fin d'année dernière. Et c'est clair qu'on l'avait dit, il me semble, précédemment, si c'était à Wimbledon ou à Roland, mais il faudrait qu'il coupe, quoi. Il faudra vraiment qu'il coupe un bon mois, voire plus, tu vois, pour vraiment recadrer, à commencer par les gens qui sont autour de lui, parce que c'est un peu la base, et puis lui aussi de reconstruire un vrai programme de travail avec les fondamentaux, et aussi sur ce sur quoi il va falloir qu'il se concentre. Mais d'abord, c'est de retrouver une très bonne qualité de service. On sait que ce joueur, quand il sert très bien, ça fait très très mal à ses adversaires. Et là, il fait pas la différence. Et il se fait breaker beaucoup trop de fois. T'imagines, il perd le troisième set 6-1 contre McDonald. Alors McDonald, ça joue très très bien, il n'y a pas de problème. Mais t'es Félix Auger-Aliassime, t'es censé être top 10, tu vois, là, il ne l'est déjà plus. Mais t'es en termes de niveau de jeu, tu vois, il y a un moment donné où on s'est dit, ok, Félix, ça joue top 10 maintenant. Et là, il a fait trois pas en arrière. Et maintenant, tu te dis, est-ce qu'il est encore top 30? Enfin, c'est assez fou de se dire ça. Et il va falloir effectivement Alors, est-ce qu'il fera ce travail de remise en question et vraiment de restructurer sa base? On ne sait pas trop. J'imagine qu'il a à cœur de vraiment défendre tous ses points de l'année dernière. Donc je pense que malheureusement il se pourrait qu'il enchaîne un peu plus qu'il devrait, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que sur un match qu'il gagne, tu vois, contre Berrettini, on a vu qu'il avait gagné 10 dans la difficulté, et je me suis dit peut-être que ça pouvait lui faire du bien. Au final, bah pas tant que ça. Et voilà, moi personnellement, j'ai un joueur que j'aime beaucoup quand il joue très très bien, donc j'espère le revoir très vite au plus haut niveau, mais là c'est une défaite logique malheureusement.
C'est clair, et pour reprendre une expression d'un de nos célèbres membres de notre Discord, je vous mettrai d'ailleurs le lien en commentaire du Discord, ben c'est la définition même d'un poulet sans tête en ce moment, Ogiel Yassine, parce que frapper fort, frapper vite, ben, ça fait pas tout dans le tennis. Et comme tu le dis très bien, Ibred, hein, c'est vrai que l'apport de Tony Nadal est vraiment questionnable au-delà du point de vue marketing, commercial. Je ne sais pas ce qu'il est venu chercher, ce qu'il lui apporte vraiment. Il y a eu cette épopée en fin d'année dernière sur Indoor, mais là, c'est impossible qu'il puisse récidiver. Donc, très, très compliqué pour lui. En tout cas, vous savez que ce n'était pas forcément une menace dans cette partie de tableau-là. Pour finir, chez les messieurs, on peut noter la belle victoire de Dominic Thiem, notre handicapé favori, par rapport aux propos de Bublik, qui aime relancer voilà, ses joueurs handicapés et qui le dit si bien, voilà, qui perd contre eux, bien sûr, enfin, voilà, totalement, enfin, c'est totalement des propos quand même, qui sont vraiment graves de la part du Kazakh et qui a fait une copie voilà, catastrophique, aussi 17 double fautes, 48% de première balle. Et une bonne victoire pour Thiem, qui est sa première en majeur depuis l'Open d'Australie 2021, qui jouera Shelton au prochain tour, enfin dans quelques heures. Donc il a un coup à jouer. Shelton qui a perdu le premier set assez violemment contre Kachin avant de se reprendre. Fuksovic, qui sort aussi le chouchou de Alex Korda, qui peine à revenir à son niveau de l'Open d'Australie en 5-7. Voilà, on sait que l'Hongrois, c'est un homme de majeur. Il a cette compétence, ses capacités athlétiques, qui fait qu'il arrive à faire la différence sur les longs matchs comme ça, même s'il n'a pas vraiment de coup fort. Et Sebi Korda, vraiment, c'est dans la tête. On sent qu'il n'a pas les automatismes. Ça avait déjà été le cas contre Vesely à Wimbledon. Mais le fait d'avoir joué, d'avoir des repères, de la confiance, c'est là que tu fais la différence, parce qu'il faut quand même 4 balles de break dans le 5e set. Il n'en fait aucune. Donc, c'est compliqué pour le joueur américain. Après, bonne défaite logique d'Humbert contre Berrettini, qui reste sur deux quarts quand même de finale là-bas, l'italien. On sait que le français n'est pas le meilleur relanceur. Et on note voilà, les victoires convaincantes de Djokovic, Paul, Jaffo, Ruud, Fritz, Davidovic Fokinal, Terra, Sinner, Zverev, Medvedev, qui sont imposés plutôt facilement. Sinner, petite mention pour Sinner, qui je trouve être un très très gros premier tour contre Hoffman, jamais facile. Toi, pour finir ce que tu as vu sur ces premiers tours chez les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à des joueurs qu'on n'a pas spécialement évoqués?
Parler côté des Français. Voilà, il y a eu des défaites comme Gasquet que je voyais pas forcément, mais il y a eu aussi quelques belles victoires hein, comme Manarino qui gagne, comme Rinderknecht, tu vois. Bon, s'il joue partout, mais voilà, quand même, il faut le sortir. Il y a aussi Gaël Monfils, tu vois. J'ai regardé le début de match et je me suis dit, putain, ça va être dur. Finalement,
c'est toujours dur avec Gaël,
ouais, mais il a bien réussi à retourner le truc. Benjamin Bonzi qui gagne, Hugo Gaston. Donc, j'ai fait le compte, ça fait un 7 sur 17 pour les Français. Donc, voilà, c'est pas 50%, mais voilà, il nous reste quand même 7 soldats pour ces deuxièmes tours. Et tu te dis que, voilà, peut-être un drogué, tu vois, sur le papier, je trouve qu'il peut vraiment faire quelque chose. Il me semble que j'ai noté leur tour d'après. Arthur Fils, il va jouer Arnaldi. Donc, tu vois, c'est largement faisable. Manarino, il va jouer Marozian. Donc, ouais. Dur, mais faisable. Mon fils Roublev, forcément, ça va être...
Ouais, c'est un peu plus chaud. Ça va être un gros match.
Bonzi, il va jouer Eubanks. Ça va être un match intéressant à suivre. Et Rinderknecht, qui va jouer Berrettini. Aussi, gros défi, ah, ça.
C'est plus compliqué.
Et Hugo Gaston qui joue Laszlo Djere, ça aussi très compliqué. Voilà, quoi qu'il arrive, on a il nous reste pas mal de Français. Et à l'inverse, chez les femmes, ça a été beaucoup plus compliqué, avec seulement une victoire sur 7, tu vois. Il y avait 7 Françaises et il n'y en a qu'une qui passe, c'est Clara Burel. Toutes les autres ont été éliminées, Cornet, Ferro, Paris, Garcia, Jacquemot, donc un bilan assez décevant, même si on ne s'attendait pas non plus à avoir 3 Françaises en deuxième semaine. Mais voilà, on va suivre nos Françaises pour espérer qu'ils nous représentent au mieux et qui pourquoi pas accrocher des troisièmes tours, voire une deuxième semaine, même si ça va être compliqué.
Justement, transition tout trouvée pour parler un petit peu des dames. Ishkai qui nous demande le classement des préférences entre Swiatek, Sabalenka, Pegula et Rybakina. Quel est ton top 4 du coup, de préférence? En fait, c'est totalement subjectif.
Ah ouais, préférence, ok. Ouais. Je dirais. Oh la vache, pas facile en vrai. Je dirais Swiatek quand même parce qu'elle est exceptionnelle et que j'ai l'impression qu'elle peut. Enfin, chaque balle qu'elle touche, elle peut faire un coup gagnant. Je dirais Rybakina. J'adore Rybakina. Je trouve qu'elle est, depuis son titre à Wimbledon, elle dégage quelque chose, une sérénité, mais en même temps une puissance assez dingue. Je mettrais ensuite, bon, pas que la quatrième, je la déteste. Hein. Franchement, c'est 4 très très, 4 championnes. Mais je mettrais quand même Sabalenka parce que quand elle est dans un bon jour, elle peut battre n'importe qui 2 et 2. donc exceptionnel aussi. Et Pegula, voilà, qui me laisse un peu plus indifférent que les trois autres, mais forcément excellente joueuse aussi, qui est à la recherche de son premier grand chelem à New York. Je crois qu'elle n'a pas dépassé les quarts de finale en grand chelem. Donc voilà, ça va être intéressant de la voir évoluer.
Et moi, j'ai exactement le même classement que toi, Josh.
Voilà.
Donc, voilà, vraiment, voilà. On ne s'est pas passé de mots, mais exactement le même classement. D'ailleurs, Swiatek qui s'est imposé très facilement.
Ouais.
Sabalenka, on peut rajouter, j'aime beaucoup Mourova aussi. Ouais. J'ai de grosses attentes en elle. La situation open, ça a été plus compliqué pour Jabeur. Des conditions particulières aussi, énormément d'humidité ce mardi quand elle a joué. Et on sent que bah, voilà, elle a encore cette finale de win dans sa tête. C'est compliqué à digérer. Et, à voir ce que ça va donner Bouskova au prochain tour. Pas facile.
Et ouais, elle a servi à 5-4 pour le match, puis elle a servi à 6-5 pour le match, et au final, elle va au tie-break. Donc attention, ces petits sauts de concentration, peut-être, je dirais, il faudra qu'elle les gomme si elle veut défendre sa finale.
C'est clair. Et après, on voit que voilà, Caro Garcia, c'est aussi voilà, cet aspect mental qui domine. Et le fait que bah, quand tout n'est pas en place, d'autant plus qu'elle a un jeu à risque, un jeu un petit peu stéréotypé où elle manque de plan B quand même. Alors voilà, à la relance, se mettre dans le court, etc., attaquer dès que possible, bah, c'est quelque chose où tu as besoin que tout soit aligné pour que ça soit possible. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ouais, Mourova, c'est clair qu'elle manque un peu de puissance, c'est dommage, c'est un peu son petit point faible.
Mais quand même, sa capacité à varier quand même fait que elle se détache vraiment d'une masse qui justement reste dans un tennis assez standard du fond de court, et elle vraiment son slice, ses montées, fait vraiment en plus en pur contrôle, en totale maîtrise, fait vraiment qu'elle peut prendre, moi je la vois vraiment s'installer si elle continue comme ça dans le top.
C'est vraiment elle avec Swiatek qui a je trouve le meilleur jeu transition défense attaque, qui arrive mieux à faire cette transition. Donc franchement, on va forcément la surveiller. Il y a eu aussi ce match, bon, là, Kokogov qui est en train de dominer contre Andreeva, l'autre pépite chez les dames qui a eu un match compliqué contre Sigmund en 3-7 où l'Allemande essaie de ralentir un petit peu le jeu, etc. Où c'est vrai que Kokogov, bah, maintenant, voilà, elle doit péter aussi ce plafond et chercher ce premier majeur après ce WTA 1000 où on a senti ses progrès côté coup droit, même si en fonction encore des balles, c'est un petit peu compliqué. Elle peut aller un peu plus à la faute, mais forcément, elle a attendu à voir si elle va tenir, voilà, elle va tenir son rang ou pas. Sakkari, on en a parlé, ouais, grosse désillusion qui fait un first dans chaque majeur, sauf à l'Open d'Australie cette année. Kalinina qui perd, Kudermetova aussi, Cocciaretto. Voilà, pas des grosses, on va dire, surprises. Pour le moment, les favorites, en tout cas celles qu'on attendait, sont au rendez-vous. Et justement, par rapport au match à suivre du deuxième tour, donc certains ont commencé, où là, Tsitsipas a breaké Stricker, mais il y a 3 balles de débreak pour le Suisse. Gojo qui mène contre McDonald's. Comme je disais, Goff, qui pour l'instant domine les débats. Qu'est-ce que toi, tu retiens un petit peu les matchs que tu as envie de suivre, à conseiller à nos talkers de vraiment scruter ça de très très près parce que ça promet une belle affiche.
Alors, match du deuxième tour, à commencer par le plus évident peut-être, qui sera le Monfils Rublev forcément, parce que voilà, Monfils a montré des super choses avec ses victoires contre Tsitsipas, contre Nori, contre Deminor, enfin, c'est des joueurs, enfin, je pensais absolument pas qu'il était capable de les battre de cette manière, tu vois, quand il y a quelques semaines, voire quelques mois auparavant. Et Rublev, voilà, qui après son titre à Monte-Carlo, je trouve un peu décompressé. Il a moins affiché son statut vraiment de top 10. Donc ça va être intéressant, ça va être très dur pour mon fils, forcément. Parce qu'en face, c'est pas n'importe qui, ça tape très fort. Mais voilà, ça peut être un très très beau match. Ensuite, j'ai un Sinner-Sonego. J'en parlais tout à l'heure, Sinner-Sonego, ça peut faire des étincelles aussi.
Sinner qui n'a jamais perdu contre des joueurs italiens.
Ouais, effectivement. Mais je pense que voilà, un bon Sonego peut vraiment lui poser des problèmes Effectivement, Sinner a gagné Toronto, mais il fait le premier tour, enfin deuxième tour juste après à Cincinnati. Et voilà, je me dis qu'un Sinner qui essaye de rentrer dans son tournoi, mais qui n'a pas encore bien mis toutes les choses en place dans son jeu. En plus, on sait qu'à la volée et dans la main, c'est un peu son point faible. Donc, si Sonego arrive à, on va dire, exploiter cette faiblesse de Sinner, bah, je me dis qu'un 4 ou un 5-7, c'est pas du tout impossible. Donc, c'est un match aussi que je regarderai avec grande attention. J'ai aussi le Paul Safiulin. J'ai le Paul Safiulin qui peut être un match assez intéressant. Safiulin, effectivement, qui a fait un gros Wimbledon. Et Tommy Paul, qui on le sait, depuis l'année dernière, s'est installé comme un joueur vraiment redoutable, avec ses victoires contre Alcaraz, même contre Nadal à Bercy. Et depuis, il a fait des très bons résultats, notamment à l'Open d'Australie. Et Safiulin, voilà, je le dis, c'est vraiment le jeu russe par excellence, qui est très puissant, très, très sans pitié, qui tape très très fort des deux côtés. Donc ça peut créer une très très belle opposition. Et enfin, j'ai le Tim Shelton qui peut, voilà, qui éventuellement, si les deux joueurs affichent un beau niveau de jeu, ça peut, je pense, faire 4 voire 5-7, avec pour moi un Shelton qui pourrait bien négocier ce tour. Enfin, s'il négocie bien ce tour, faire un troisième tour à l'US Open, ce serait déjà une belle étape. Mais attention, Dominic Thiem qui a vraiment qui est allé assez vite dans son premier tour, qui a bénéficié d'un public qui a fait un peu n'importe quoi, mais bon, Thiem a fait le boulot. Et chez les femmes, je dirais un Kazatkina Kenin, qui pourrait être une belle opposition. Kenin qui essaye de revenir petit à petit. Voilà, et Kazatkina qui est vraiment une valeur sûre, même si ça peut fluctuer au niveau des résultats. Je pense que ça peut être une très très belle opposition. D'ailleurs, j'ai noté quelque chose, j'ai fait le compte chez les femmes dans ce premier tour. 75%, donc 3 matchs sur 4 à l'US Open dans ces premiers tours, ont fait 2-7-0. Et seulement 25% ont fait 2-7-1. Donc ça monte quand même assez, on va dire, un niveau, enfin, des matchs assez expéditifs. Contrairement aux hommes où tu as du 5-7 avec du Dimitrov, du Hurkacz, etc. Et je pense que ça peut aller assez vite d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Mais j'ai aussi envie de mettre Jabeur qui va jouer Noskova au deuxième tour. Ça va être très intéressant à suivre. Ça va nous permettre de voir plus clair si, au niveau de Jabeur, au niveau de son état physique. Et tennistique aussi, de voir si elle va être dans la lignée de son premier tour, même si ça n'a pas été simple. Et à noter que voilà, elles se sont jouées une fois, c'était à Adélaïde en début d'année, et que Noskova avait gagné en 3-7. Donc Jabeur va devoir égaliser et gagner ce match si elle veut aller loin. Donc voilà, quelques matchs intéressants. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai notifié ceux-là.
Je suis en face avec toi, ouais, j'ai rajouté le Kvitova Wozniacki. Aussi un peu comme au bon vieux temps, même si voilà, Wozniacki qui est sur le retour, sinon je suis totalement d'accord avec ce que tu as évoqué. Et j'étais en train de regarder un peu le tableau, et celui qui pourrait tirer son épingle du jeu, qu'on n'a pas évoqué, c'est Karatsev, Jukar Balès, et qui après jouerait Timo Shelton. On sait qu'il est bien, quand il est bien luné, le russe, il peut aller très loin, il peut faire très très mal. Voilà pour ces tours. On va en profiter là sur ces 5 dernières minutes pour répondre aux questions qu'on a eues. Steph nous demande un scénario. Rocambolesque, que tu pourrais nous faire de cette US Open, qu'est-ce qui serait le plus fou pour toi? Voilà. Que tu as cette appétence à nous vendre du rêve là sur ce tournoi, qu'est-ce qui serait.
Alors, le plus fou, il y a plusieurs, plusieurs scénarios qui pourraient être fous. Hein. Effectivement, chez les hommes, on a une histoire tous dans notre tête si on fait on essaye de voir ce qui va se passer dans 2 semaines. Je pense qu'on a tous en tête ce Djokovic-Alcaraz. Donc déjà, le plus fou, c'est qu'il n'y ait aucun des deux joueurs en finale. Je pense que voilà, que ce soit je sais pas, du Medvedev, du Medvedev-Tiafoe, du Medvedev-Paul, enfin une finale comme ça, ou
C'est ça,
encore
ouais,
plus
c'est.
avec deux joueurs qui n'ont jamais gagné le tournoi, tu vois. Voilà, faisons encore plus fou. Un Rublev-Tiafoe, enfin un truc dingue. Je pense
Ah,
que
t'es
voilà,
joueur avec un joueur ricain, ça serait exceptionnel.
ce serait fou. Ouais. Je me demandais si deux joueurs ricains pourraient se rencontrer. Enfin, il y a des joueurs américains dans les deux parties de tableau. Mais tiens, bah, un truc fou, c'est que un truc, on va dire inconcevable, ce serait que John Isner joue Tiafoe en finale. Tu vois, ça, ce serait de la folie, ça. Tu vois. John Isner
Ah.
qui a gagné son premier match en 3-7, il va être à suivre ensuite. Je ne sais plus qui joue de mémoire. Il va jouer Isner. Il devait jouer le Khachanov, je crois.
Ouais, pour lui, moi je le voyais toi au troisième tour contre Hurkacz, vu que là il va jouer Michael Moe.
Ok,
Et on sait
ouais,
que
c'est
voilà,
ça.
on est porté par la foule pour la retraite.
Ouais, donc voilà, un truc fou, sans finale 100% américaine, Isner-Tiafoe, sachant que je crois Roddick est le dernier américain à avoir gagné un grand chelem chez les hommes, c'était ici il y a 20 ans. Donc ce serait de la folie, je pense, pour les États-Unis et le tennis américain, qui monte, hein, qui remonte très très bien en ce moment, avec du Tommy Paul, du Gigi Wolf, enfin, des joueurs très intéressants. Voilà, je pense qu'une finale 100% américaine, ce serait hallucinant. Et avec des éliminations de Djokovic et d'Alcaraz, je sais pas, en huitième ou en quart de finale, dans des matchs fous. Un Alcaraz qui perd face à un Sinner, tu vois, un Sinner qui prend sa revanche en 5-7, un truc qui dure 4 heures, 5 heures. Ouais, ça, ce serait dingue. Et un Djokovic qui perd, ouais, faudrait qu'il se refasse disqualifier parce que je te dis, je vois pas comment il peut perdre.
C'est clair.
Il perd contre un Fritz sans feu, faisant encore plus fou. Un Américain qui bat Djokovic. Ouais, un Fritz Cisner, tu vois, en finale, ça, ce serait fou pour moi. Chez les femmes, je ne sais pas si tu as un scénario à nous proposer.
Quoi qu'il arrive, enfin, hormis voilà, si
Ouais.
la tête ou pas, mais quoi qu'il arrive, ça peut être une surprise.
Ouais,
Mais
j'aime,
si,
tu vois, un jabeur qui gagne, je pense que ce serait un.
ce serait bien pour elle. Enfin, c'est vraiment une
Ouais,
joueuse que
c'est ça pour
j'apprécie.
moi, tu vois. Un scénario de dingue. De toute manière, Świątek, Sabalenka, Rybakina, pas vainqueur, ce sera déjà une surprise, une petite surprise. Si on enlève aussi Mourova, Pegula, je pense qu'on peut très vite aller dans la folie chez les
Ouais,
dames.
beaucoup plus que
Facilement, quoi.
chez les messieurs.
Et
Les règles par rapport,
ouais.
tu voulais dire?
Ouais, non, une Svitolina ou une Azarenka qui gagne, là on serait dans le gros délire aussi. Mais c'est pas impossible non plus.
Du coup, Livret, pour répondre au premier tour de Casper Ruud, ça a été compliqué contre Nadal, le qualifié,
Ouais.
qui, voilà, 4-7 comme toujours. Il a la chance d'avoir un parcours où il peut se faufiler en fonction de la forme de ses adversaires, comme d'habitude. Hein. Mais en tout cas, il devra vraiment hausser le curseur par rapport à ce qu'il a montré lors de ce premier tour. Ishkay, par rapport à la plus belle finale dames qu'on ait vue de l'US Open, moi je pense enfin, récemment, entre guillemets, c'était il y a 10 ans déjà, les Serena Williams Azarenka, je trouve un match-up magnifique. Entre les deux joueuses, à chaque fois, il y avait une très très belle confrontation. Il me semble que c'est 2012 et 2013. Si je ne dis pas de bêtises, après, tu as les classiques, où là, on ne les a pas connus en direct. Ben, Céleste Graf, c'était 95, où tu avais des très belles oppositions. Je ne sais pas, toi, Josh, laquelle te vient en tête?
Bah dans celle que j'ai regardée, il n'y en a pas des masses non plus. Mais je dirais, bah, tu vois, un truc fou, par exemple, pour retourner dans la folie, c'est un Raducanu Fernandez, tu vois, un truc dingue, avec justement l'aspect mental qui rentre en jeu. Une finale dingue. Je pense aussi à la finale Williams-Osaka, qui est partie en vrille totale. Avec le pétage de câble de Serena
Ça.
Williams. Et en face, tu as une Naomi Osaka qui jouait pour son premier majeur et qui est restée complètement focus dans son match. Elle a été exceptionnelle. Je pense aussi à 2015, à Penetta Vinci, tu vois, une finale qui a été.
Ouais, ça c'était vraiment.
Ouais, 100% italienne, avec un gros niveau de jeu, de ce que je me souviens. Donc, ouais, après, il faut retourner plus loin dans le temps, mais voilà, de ce que j'ai vécu en tout cas à l'US.
Tiens, voilà, on a tenu nos 50 minutes, ça a été un plaisir d'être avec vous.
Il y avait une question aussi, qu'est-ce qui manque à Medvedev pour qu'il retrouve son niveau de jeu à l'US 2021?
Ah, je l'ai loupé, elle est où? Je l'affiche. Ah là,
minute, ouais.
De la confiance.
Confiance, on n'a pas pu le jauger sur son premier tour parce qu'on a eu en face.
Non, Balaz, voilà, c'est...
Ouais, c'était très compliqué. C'était limite, je me demandais si c'était pas un troll, quoi. Enfin, je me suis dit, mais sans manquer de respect, hein, c'est un joueur professionnel très fort. Mais il y a des moments, c'était assez n'importe quoi. Donc, on verra ce que ça donne sur son deuxième tour qu'il sera
contre O'Connell qui lui avait donné quelques sueurs froides à Doha cette saison. C'est un joueur qui varie énormément, qui slice beaucoup, qui monte au filet, un peu comme Purcell, qu'il aurait pu affronter, qui aurait pu lui poser de problème. Je pense que voilà, ça peut dérégler un petit peu le rythme de Medvedev, mais Medvedev, il se fait entre guillemets de plus en plus vieux, hein, mine de rien, les années passent. Donc ça, s'il a ce manche-là, mais il lui manque pas mal de choses parce qu'il reste un petit peu dans son fond de jeu à faire le mur. Et quand c'est en face, quand ça donne des points, bah, c'est cool pour lui. Mais quand ça tient, du coup, il faut qu'il arrive à trouver un moyen pour justement faire le point. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'il a un déficit de puissance. Côté coup droit, il manque de constance. Certes, pour la puissance, il avait changé son cordage. Ça l'a un petit peu mieux en début de saison. Après, voilà, c'est formidable côté revers. C'est formidable du fond. Au service, quand ça passe, c'est merveilleux. Mais ouais, c'est beaucoup drivé par la confiance. Et mine de rien, il y a une certaine forme de stagnation avec un niveau moyen qui est quand même très élevé et qui est plus élevé que la plupart des autres joueurs. Mais quand on sait le jouer, quand on l'appréhende et quand on arrive justement à faire la différence, typiquement le match contre l'Ex Dominor qui joue exactement dans la même filière, mais si son adversaire, en plus d'être un mur du fond, commence à aller au filet, à faire le petit truc pour essayer de faire le point, c'est là que c'est très compliqué pour lui.
Ouais. On a aussi quel Français ira le plus loin pour vous. Moi, je vais dire Arthur Fils, qui, je pense, peut vraiment gagner son deuxième tour contre Arnaldi. Et potentiellement, si on veut rester dans la folie, Drogué, qui a une belle carte à jouer.
Peut-être Arthur Fils.
Ouais, ça peut être un très bon premier résultat en Grand Chelem, troisième tour. Je ne sais pas qui il a après. Après Arnaldi potentiellement, mais ce serait un beau tournoi déjà. Je vois pas.
Ça serait Nori ou en vrai ça serait Nori ou Sou avant le choc contre Alcaraz.
Mais... Étant donné que chez les femmes je vois malheureusement pas Burel s'imposer contre Plíšková au deuxième tour, donc ça ferait un fils au troisième.
Manarino, je crois que c'est un bon pic aussi, Manarino. Je regarde Marochan et au final. Ah ouais, Tiafo, ouais, ça peut être, ouais.
Compliqué quand même, ouais, Tiafo. À voir.
Ça peut, ouais. À voir. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci à vous tous pour ce live. On a été bon dans les délais. On est en dessous de l'heure. On se retrouve vendredi, pour la fin, les deuxièmes tours. On sera avec nos copains de Tennis Metrics aussi qui sont présents pour vous faire part de leur analyse. D'ailleurs, si vous cherchez une application qui vous donne des analyses sur une grande partie des matchs de l'US Open, je vous invite à la télécharger, c'est gratuit. Tous les liens sont en description. Donc, merci à toi, Josh. Passez tous une bonne soirée sur les matchs qui viennent de commencer avec ce Tsitsipas Stricker. On va voir ce que ça donne et cette surprise un peu McDonald's qui galère contre Gojo. Merci à tous d'avoir été présents et nous, on se retrouve vendredi pour un prochain live et on verra s'il y a des pastilles d'ici là en fonction des surprises un petit peu de ce qui se passe. Et c'est bien sûr la deuxième semaine qu'il y aura plus de vidéos qui vont sortir, notamment pour les grosses affiches à prévoir. Allez, passez tous une excellente soirée. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao tout le monde.
Salut.